Rama, émission produite par Benoît Basirico sur Aligre FM et en replay sur cinésique.fr, fait sa rentrée avec une nouvelle formule et un nouveau nom, BO Rama, qui chaque mois désormais accordera plus de place aux BO incontournables. Ce qui ne veut pas dire plus de nouveautés, il y aura toujours des nouveautés, mais plus de place aux BO incontournables autour de 3 ou 4 sujets qui seront les incontournables du mois, certains avec invités, d'autres pas. Ce mois-ci, pas d'invités, mais 4 sujets incontournables de la musique de film. Le premier, les chanteuses et chanteurs français qui ont écrit de la musique pour le cinéma entre 69 et 79. Compositeur à l'honneur dans le mois, Danny Elfman, à l'occasion d'un concert à la Philharmonie, on s'intéressera à la décennie 90 de Danny Elfman. Musique originale ou musique préexistante, on se posera la question de la différence entre les deux. Et enfin, adaptation de Stephen King, nous intéresserons aux musiques d'adaptation de cet auteur américain.
Arrête tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord ?
Et on commence avec deux nouveautés du mois d'août pour un petit flashback sur le mois passé avec tout d'abord Midsommar, un film d'épouvante de Ari Aster et une superbe musique effrayante de Bobby Krylik. Climat horrifique, vision cauchemardesque, harmonique dissonante. Autre coup de cœur du mois passé à l'instant, Perdri, musique de Julie Rouet pour la comédie de Erwan Leduc. C'est son premier film avec Swan Harlow et Maud Wyler. Coup de cœur du mois d'août donc, composé par Julie Rouet. D'autres nouveautés parsèmeront l'émission entre chaque séquence. Et maintenant, notre premier panorama BO dans Béorama.
Vas-y, les écoute pas. Sinon, dans 5 minutes, tu vas te mettre à chialer tellement ils sont émouvants.
À l'occasion de la sortie le 11 septembre de Jeanne de Bruno Dumont avec Christophe le chanteur qui compose la musique de ce film ainsi que les chansons, des chanteurs sont également l'auteur de leur partition au fil de l'histoire du cinéma. Ce qu'ils ont ainsi pu pratiquer au cinéma, certains ont même signé des BO cultes. Voici une sélection de BO instrumentales entre 69 et 79 pour une décennie en compagnie de chanteurs et compositeurs. Et on commence par un hommage à Jean-Pierre Mocky. Et oui, Jean-Pierre Mocky a beaucoup fait appel à des chanteurs pour la partition de ses films. Tout d'abord en 1969, Solo, policier avec également Jean-Pierre Mocky, musique de Georges Moustaki.
Thank you.
Sûrement reconnu à l'instant la voix de Léo Ferré dans le film policier de Jean-Pierre Mocky, avec Jean-Pierre Mocky, l'Albatros, en 1971. D'ailleurs, Georges Moustaki, tout d'abord avec Solo, puis à l'instant Léo Ferré, gardent leur voix dans leur partition. On entend cette voix même s'il n'y a pas de parole. On peut également, dans le cadre de cet hommage à Jean-Pierre Mocky, citer un troisième film, Amor l'arbitre, en 1984. Et là, c'était Alain Chamfort qui faisait la musique. Maintenant, Christophe, en 1970, La route de Salina de Georges Lautner, un film franco-italien avec Rita Hayworth. C'est la première incursion dans le domaine cinématographique du chanteur Christophe.
Thank you.
des chanteurs qui se révèlent être de très bons compositeurs pour le cinéma, à l'instant où Christophe pour La Route de Salina, ou à l'instant Gilbert Bécaud, figurez-vous, pour La Maison sous les arbres en 1971, pour le film de René Clément avec Faye Dunaway. D'ailleurs, Christophe devait le faire, pour l'anecdote, il a décliné, et c'est un autre chanteur, Gilbert Bécaud, qui s'en empara. On retrouve dans ces deux partitions un même lyrisme. Le lyrisme sera la marque de fabrique des chanteurs lorsqu'ils passent derrière le pupitre d'un film. Michel Polnareff, maintenant, avec 1971, le chanteur aux grosses lunettes, a signé la comédie historique La Folie des Grandeurs, la musique pour le film de Gérard Houry avec Louis de Funès, Yves Montand et Alice Sapritch. Gérard Houry a fait appel à Michel Polnareff, très à l'aise dans la parodie. Il a pu comme ça parodier en fait dans le respect historique. Et également, Gérard Houry refera appel à Michel Polnareff en 84 pour La Vengeance du Serpent à Plumes. Mais pour l'instant, La Folie des Grandeurs.
C'est l'or. Il est l'or, l'or de se réveiller.
Moi, je réponds à castillage, peinture, menture, voilure. C'est pas fini, cher monsieur, ça commence.
Vous rappelle quelque chose, c'est qu'elle vous rappelle Georges Brassens. Et oui, le chanteur Georges Brassens laisse la voix de côté, son texte pour la guitare uniquement dans la partition pour Le Drapeau Noir Flotte sur la Marmite, un film de Michel Audiard avec Jean Gabin, comme vous l'avez entendu dans l'extrait de dialogue. Des chanteurs donc qui sachent composer, mais il y a également des chanteurs qui ont des belles mélodies en tête et qui ne savent pas forcément écrire une partition et font appel à des orchestrateurs. C'est le cas de Charles Aznavour qui fait appel à Georges Garverens, qui d'ailleurs compose plus que orchestré. Donc il y a beaucoup de BO signés Charles Aznavour, mais c'est surtout Georges Garvarens qui est derrière, tout comme Serge Gainsbourg en fait, qui fait appel à des arrangeurs et co-compositeurs successifs, que ce soit Alain Goraguer, Michel Colombier ou encore Jean-Claude Vanier. Serge Gainsbourg signe d'ailleurs Cannabis en 1970 avec Jean-Claude Vanier.
Soleil, la mer, on ne bouge pas, on regarde le ciel. On écoute les vagues.
Alors emmène-moi tout de suite.
Pouvoir tout te donner. Je t'aime.
Jacques Brel, à l'instant, écrit cette musique en compagnie de François Robert pour, en 1971, France, sa première réalisation, et il réalisera un autre film en 73, Le Far West, et en composa donc tous les deux la musique. Et à l'instant, c'était donc France, une histoire d'amour entre Barbara et Jacques Brel. Le lyrisme de la partition rime avec la romance. Autre chanteur, compositeur de films, Pierre Bachelet, il a commencé avec un film érotique, Emmanuel, en 1974. Il est aussi connu pour Les Bronzés font du ski de Patrice Lecomte, mais il a aussi signé la musique de deux films de Jean-Jacques Canaud, La Victoire en chantant, en 1976, et en 1979, il a composé la partition du film avec Patrick Devers, toujours de Jean-Jacques Canaud, Coup de tête. Et le thème principal de ce film est sifflé, en clin d'œil au western, un thème désinvolte, mélancolique, pour cette comédie satirique.
Je requiers expressément
avec
que le juge la déclare hérétique
et mort d'année
sans débat, par défaut
avec les condamnés.
Je ne suis pas hérétique, je suis bonne chrétienne.
Alors, elle n'a plus besoin de nous.
Panorama des chanteurs compositeurs entre 69 et 79 s'est terminé à l'occasion de la sortie le 11 septembre de Jeanne de Bruno Dumont. Et nous venons d'entendre un extrait de la bande-annonce où on y décèle la voix du chanteur Christophe qui en signe également une partition instrumentale avec pleine de lyrisme pour ce magnifique film. Donc Jeanne, deuxième volet du diptyque sur Jeanne d'Arc après Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc. Donc Jeanne, le 11 septembre. Chaque panorama des BO dans Béorama va être intercalé de nouveautés, et là une première nouveauté, Roubaix, une lumière, un film policier de Arnaud Desplechin avec Roche Guizem, Léa Seydoux et Sarah Forestier, une intrigue policière sur deux meurtrières présumées. Grégoire Hetzel retrouve son fidèle Arnaud Desplechin une septième fois depuis leur rencontre sur Roi et Reine en 2004. La musique apporte du romanesque, alors que le film de Desplechin est beaucoup plus réaliste que d'habitude.
saviez comme je me sens bien en ce moment.
Béo Rama, compositeur à l'honneur ce mois-ci avec Danny Elfman à l'occasion d'un concert à la Philharmonie de Paris les 14 et 15 septembre. Week-end Danny Elfman à la Philharmonie de Paris, on pourra y entendre des partitions de Batman, Édouard Romain d'Argent pour un grand concert symphonique. Intéressons-nous donc à la décennie 90 qu'on peut définir comme l'âge d'or de Danny Elfman, de magnifiques films notamment de Tim Burton avec lequel il a débuté. On va commencer donc cette décennie 90 par Édouard Romain d'Argent. En 1991, avec Johnny Depp, Winona Ryder, romance fantastique, revisitant le mythe de Frankenstein. Danny Elfman retrouve Tim Burton une troisième fois, hein. C'était déjà avec Pee-wee Big Adventure en 85, Beetlejuice en 88 et le premier épisode de Batman en 89. Édouard Romain d'Argent, musique féerique, poétique, avec toujours un versant plus sombre et torturé. Avant d'écouter un extrait de la partition, écoutons un commentaire de Thibaut Vic sur Édouard Romain d'Argent.
D'emblée, la valse triste d'Edward, par le Célestat et le cœur d'enfant, explore une atmosphère poétique désolidarisée du réel et qui ne ressemble à aucune autre, faisant de cette BO l'une des plus emblématiques de son auteur. Tout le langage elfmanien se trouve dans le développement d'une timidité qui bataille pour s'ouvrir à l'indifférence du monde, ici représentée par la cruauté hypocrite des banlieues pavillonnaires américaines. La partition s'appuie sur ce contraste entre la mélancolie d'un thème bienveillant, celui d'Edward, et la mécanique bien huilée des faux sourires produits à la chaîne entre deux pelouses bien tendues. Tchaïkovski et Stravinsky ne sont jamais très loin.
À l'instant, Batman le défi, on y reconnaît le thème de Batman, on retrouve toujours l'attention pour porter sur la voix de la part de Danny Elfman, la voix, un thème mémorisable, ce qui fait la caractéristique de Danny Elfman, et ici en 92, donc Batman Returns, le défi de Tim Burton, et on a entendu la voix de Michel Pfeiffer, et l'homme derrière la bête, ou la bête derrière l'homme, c'était Michael Keaton, donc Batman. L'étrange Noël de Monsieur Jacques, en 93, Danny Elfman retrouve Tim Burton, qui supervise cette œuvre d'animation, même si c'est Henry Selick qui la réalise. Il est également la voix du personnage de Jack Skellington, et il est donc l'auteur et l'interprète des chansons, car ce film d'animation est aussi une comédie musicale. On y retrouve donc l'attention portée à la voix, à une puissance thématique, et une richesse, une inventivité incroyable dans l'invention de couleurs, de rythmes et de mélodies. Et on retrouve toujours, chez Danny Elfman, l'esprit de la valse.
Thank you. We come in peace. We come in peace. We come in peace.
Danny Elfman lorgne du côté de la science-fiction des années 50 et notamment du Jour où la Terre s'arrêta, dont il réutilise le thérémine de la BO de Bernard Herrmann. Sa musique complexe atteint une dimension comique en surdramatisant les ingrédients du polar, de la chronique familiale, du film de guerre et du film catastrophe. Comme souvent, Danny Elfman fait usage d'un rythme perpétuel, quasi industriel. Ici se décèle le double sens de la course au consumérisme de la part des terriens et d'un champ de bataille colonisateur du côté martien.
Commentaire de Thibaut Vic. Mars attaque en 1996 à l'instant, sixième collaboration avec Tim Burton, film avec Jack Nicholson, Glenn Close et Pierce Brosnan, une partition très fortement inspirée des compositions fantastiques de Bernard Herrmann. Danny Elfman est très souvent sous influence. Mars attaque donc Bernard Herrmann, il y a eu aussi dans Pee-wee à ses débuts une influence très marquée de Nino Rota, le compositeur de Fellini. Sleepy Hollow en 99 avec toujours Johnny Depp, hein, l'acteur fétiche de Tim Burton, c'est son véritable film d'épouvante à Tim Burton. Et bien là, Danny Elfman est sous influence des films d'horreur de la Hammer en Grande-Bretagne, avec des chœurs aussi qui sont toujours sa marque de fabrique et l'univers du conte, un mélange d'enfance et de morbide.
Thank you.
écoute maintenant Tim Burton, autre collaboration de Danny Elfman avec Sam Raimi, avec à l'instant Un plan simple en 1998 avec Bill Paxton, Billy Bob Thornton et Bridget Fonda, un thriller enneigé qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le Fargo des frères Coen. Mais là donc c'est Danny Elfman à la partition, collaboration avec Sam Raimi qui avait débuté 8 ans plus tôt en 90 avec Darkman. Autre collaboration, puisque Danny Elfman n'est pas que le compositeur de Tim Burton, au-delà donc de Sam Raimi, il y a aussi Gus Van Sant, collaboration qui continue toujours, qui a débuté par une comédie policière avec Nicole Kidman en 95, Prête à tout. Il débuta donc sa collaboration avec Gus Van Sant par cette partition. Grande symphonie orchestrale avec des percussions qui ne sont pas sans rappeler le thème d'une certaine série, Mission Impossible, qui fut alors signée par Lalo Schifrin. Et bien là, c'est Danny Elfman qui reprend Mission Impossible, cette fois-ci réalisée par Brian De Palma avec Tom Cruise, premier opus avec Tom Cruise, et donc c'était Danny Elfman à la partition. Autre collaboration de Danny Elfman avec Peter Jackson, unique collaboration pour Fantôme contre Fantôme, comédie de Fantôme avec Michael J. Fox. Attention, ça envoie. Un thème épique pour ce Black Beauty, Prince Noir, film de Caroline Thompson. C'était la première partition de Daniel Elfman pour Caroline Thompson, mais il la connaissait déjà, puisqu'en fait, Caroline Thompson, c'était la scénariste d'Edouard aux mains d'argent ou encore de L'étrange Noël de Monsieur Jacques. Donc, de la du scénario à la réalisation, Daniel Elfman a suivi cette Caroline Thompson. Voilà le panorama des BO de Daniel Elfman de la décennie 90. C'est terminé. C'était à l'occasion, je le rappelle, d'un concert de Daniel Elfman les 14 et 15 septembre à la Philharmonie. Parenthèse nouveauté musicale, maintenant, le 4 septembre est sorti Les Hirondelles de Kaboul, film d'animation de Zabou Breitman, à Kaboul à la fin des années 90, et c'est Alexis Rowe qui signe la musique, partition qu'il définit comme une aquarelle très douce, avec des tons pastels qui viennent contraster avec la brutalité du sujet.
Vous désirez d'abord rompre des liens provisoires qui vous attachent à des personnes provisoires. Moi, je suis définitif.
Benoît Basirico et Cinésique sur Aligre FM pour l'actualité du mois de la musique de film.
Musique originale ou musique préexistante. Qu'est-ce qu'une musique originale? On peut dire que c'est une musique qui a été écrite spécifiquement pour un film par un compositeur. Et une musique préexistante, c'est une musique qui a été écrite auparavant dans un tout autre contexte. Ça peut être le réalisateur qui prend un album de sa discographie, ou alors d'un autre spectacle ou d'un autre film. Il y a des films emblématiques qui utilisent le répertoire et qui contribuent à la réussite des films. Ça a commencé avec un répertoire classique, Tchaïkovski, Stravinsky pour Fantasia de Walt Disney dans les années 40. Il y a eu Mahler dans Mort à Venise, il y a eu du rock également, notamment une chanson de Simon & Garfunkel dans Le Lauréat de Mike Nichols, Macadam Cowboy, Easy Rider, American Graffiti, Martin Scorsese l'a souvent fait, à commencer par Mean Streets. Certains cinéastes s'en sont fait une spécialité, il y a Stanley Kubrick, notamment avec 2001 Odyssée de l'espace, il a rejeté la partition d'Alex North pour n'utiliser que des morceaux de musique savante préexistante. Quentin Tarantino l'a souvent fait également, il n'a jamais collaboré avec un compositeur avant Les 8 Salopards en 2015, qui signa sa seule participation à un compositeur avec Ennio Morricone, ou encore il y a Woody Allen qui l'a souvent fait. Alors musique préexistante et musique originale, chacune a sa spécificité, on pourrait dire qu'une musique préexistante est chargée parfois d'une certaine notoriété, et donc on peut dire que c'est la musique des personnages, ce qu'ils écoutent dans un bar par exemple. Et la musique originale est une musique qui n'est pas connotée, qui peut être signifier l'intériorité d'un personnage, ou qui peut également être une simple musique narrative ou d'illustration dramaturgique. Mais ce n'est pas si simple. Musique originale et musique préexistante peuvent également se confondre. Alors, Dans quel cas ces musiques peuvent se confondre ? Tarantino, par exemple, a souvent fait appel à d'autres BO pour la musique de ses films. Et parfois, on pense que c'est la BO de son film. On dit, tiens, c'est la musique du Tarantino, alors que c'était Morricone, Bacalov ou Ortolani qui l'a composée. Alors, Tarantino a souvent fait appel à des Italiens pour ses partitions, mais dans le dernier, Once Upon a Time in Hollywood, il a fait appel à un Français. Maurice Jarre a signé un des morceaux préexistants, donc, de Once Upon a Time in Hollywood. Alors faire appel, comme le fait Tarantino, à une autre BO, c'est un titre qui est déjà chargé émotionnellement, c'est un titre qui est même parfois déjà chargé de manière narrative, donc finalement elle peut, cette musique préexistante, se confondre avec une musique originale. Rebecca Slotowski a réalisé un film récemment qui s'appelle Une fille facile. Eh bien, dans ce film-là, Rebecca Slotowski a fait appel à une musique donc préexistante, qui est un air de Schubert, qui a été arrangé à la guitare par Dominique Chevalier, et cette mélodie hongroise de Schubert revient plusieurs fois dans le film. Donc finalement, la musique préexistante peut se confondre avec la musique originale quand finalement elle est utilisée comme un thème. Cette musique a finalement un rôle narratif également. Cette mélodie hongroise de Schubert, donc utilisée plusieurs fois dans le film, elle est même d'ailleurs entendue dans la bande-annonce du film, donc ça devient presque la musique du film, même si donc Schubert évidemment ne l'a pas composée pour le film. Woody Allen, de son côté, sort d'ailleurs en septembre le film Un jour de pluie à New York, avec une compilation de jazz. Eh bien, ce qui fait confondre musique préexistante et musique originale chez Woody Allen, c'est qu'il a à chaque fois, il choisit un choix homogène de partition. Il ne fait pas un melting pot comme Tarantino, il va puiser à chaque fois dans un même répertoire. Pour un film, ce sera du jazz, et dans un autre film, par exemple, comme Match Point, ce sera de l'opéra. L'unité, la cohérence donc de ces choix musicaux peuvent la faire emprunter les vertus d'une musique originale. Alors parfois, un titre existant supplante la musique originale dans la notoriété. Drive, par exemple, Cliff Martinez a fait la musique, mais on l'a oublié au profit de Kavinsky, un titre de Kavinsky qui a été utilisé donc dans ce film, comme ce titre que l'on entend tout de suite. Alors on connaît tous ce film, cette musique, et on dit c'est la musique de L'Exorciste. L'Exorciste de William Friedkin en 1973, ce titre donc, c'est Tubular Bells de Mike Oldfield, et en fait il a été emprunté par Friedkin à un album de Mike Oldfield, ce n'est donc pas la musique originale, même si c'est maintenant devenu le thème de L'Exorciste. C'est Jack Nitzsche qui signale, lui, la musique originale de ce film. Est-ce que c'est une musique originale ou préexistant ? Ce morceau-là, c'est une scène de bal dans Le Guépard de Visconti. C'est sur cette valse, cette mazurka, que Alain Delon et Claudia Cardinal, deux jeunes mariés, dansent dans le Guépard. Musique originale ou musique préexistante ? Eh bien, musique originale. C'est Nino Rota lui-même qui a écrit une valse dans l'esprit des musiques des années du 19e, une danse traditionnelle originaire de Pologne. Et donc, c'est une musique originale, mais qui peut se confondre avec de la musique préexistante, puisqu'elle relève en fait du pastiche. Alors, ce thème-là, très connu, original ou préexistant ? Alors on connaît tous ce thème, c'est le love theme du Parrain, The Godfather de Coppola. Et bien ce film d'ailleurs, le Parrain a remporté 3 Oscars à sa sortie, mais la musique n'a pas pu concourir pour la célèbre cérémonie. Pourquoi ? Le compositeur de cette musique, Nino Rota, n'a pas pu concourir pour l'Oscar. Et bien figurez-vous que Nino Rota lui-même, pour son thème dans le Parrain, a repris une de ses propres partitions pour un film réalisé en 1958, donc plusieurs décennies auparavant. Et donc il s'agissait donc... Le thème du Parrain provenait d'un film qui s'appelle Melodia, Per Fortunella. Voilà, c'est une version qu'il a un peu accélérée pour le Parrain. Elle est beaucoup plus lente dans cette version donc de 1958. Donc voilà, quand un compositeur lui-même reprend ses partitions, ça entretient encore plus la confusion entre ce qui est original et ce qui est préexistant. Alors parfois, une musique préexistante peut être intégrée dans l'original. Un compositeur peut transformer une musique préexistante qui en fait une nouvelle création finalement. Il s'agissait d'un thème, donc une musique très célèbre de Rossini, Guillaume Tell, qui a été repris en version accélérée dans le Orange Mécanique de Kubrick en 71 par Wendy Carlos, et puis qui a été repris également par Hans Zimmer dans le western de Gore Verbinski, Lone Ranger. Nous avons entendu à l'instant l'original, suivi des deux reprises, qui se confondent avec une musique originale tellement elle est intégrée d'une manière nouvelle, donc dans une nouvelle création. Voilà pour le panorama donc des musiques préexistantes originales, une espèce de questionnement finalement sur qu'est-ce qu'est l'une et l'autre, et les deux peuvent se confondre. Et on va terminer avec une nouveauté, il s'agit de Deux mois, un film qui sort le 11 septembre, c'est un film de Cédric Clapiche, et Cédric Clapiche d'ailleurs a très souvent utilisé des musiques préexistantes dans ses films, mais il collabore aussi avec un compositeur, Loïc Dury. Et il a donc pour la 7e fois fait appel à Loïc Dury pour ce film Deux mois, une romance avec François Civil et Anna Girardot, une romance d'un nouveau genre, puisque c'est sur une relation à distance, deux voisins qui s'ignorent, ne se connaissent pas, mais finalement qui tombent amoureux à distance, finalement ce sont, et cette musique va entretenir le lien entre ces deux solitudes. Mais j'ai décidé dans cette chronique musique originale, musique préexistante, à vous faire écouter une musique originale, mais qui est finalement une chanson. Une chanson qui apparaît au générique de fin. Loïc Dury en a fait la musique, et il s'agit de Cédric Clapiche lui-même qui en a écrit les paroles, interprétées par Laetitia Bourgeois. Donc cette chanson, ça se fait, Loïc Durie le fait souvent pour Cédric Clapiche, où justement la confusion entre musique originale et musique préexistante est très prégnante lorsqu'il s'agit comme ça d'une chanson un peu marquée comme ça, dans un style très, très identifié. Mais il s'agit donc d'une création originale pour ce film magnifique de Cédric Clapiche, « Deux mois ». Parenthèse musicale maintenant, avec les plateformes sur Netflix, à voir en ce moment une série, The Dark Crystal, le temps de la résistance. C'est une série animée, 10 épisodes, depuis le 30 août sur la plateforme Netflix, et c'est Daniel Pemberton, peut-être le plus important compositeur actuel de la nouvelle génération à Hollywood, réalisé par Louis Leterrier, et en voici donc la partition.
Se fait plus étroit, plus rapide.
Bien. Théorama maintenant avec les adaptations de Stephen King, une décennie, 76, 20 ans, l'âge d'or, on va dire, des adaptations de Stephen King, à l'occasion de la sortie le 11 septembre de ça, chapitre 2, deuxième opus donc de l'adaptation de Stephen King, par Andy Muschietti et la musique de Benjamin Wallfisch. Alors, le premier roman paru de Stephen King, c'était donc pour Carrie, qui a été adapté par Brian De Palma en 76, et la musique signée Pino Donaggio, une musique faussement désuète, comme une seconde lecture en contrepoint de l'horreur. C'est la première des 6 collaborations entre le cinéaste Brian De Palma et Pino Donaggio, avec donc cette partition pour ce premier roman de Stephen King, Carrie, parfois contemplative et douce, parfois agressive et violente.
Ce soir ici.
Après avoir entendu la voix de Jean-Louis Trintignant qui fait la VF de Jack Nicholson dans Shining à l'instant avec cette musique de Wendy Carlos, alors Stanley Kubrick emploie beaucoup de musiques préexistantes et dans Shining il ne fait pas défaut à cela avec Bartok, Ligeti, Penderecki, mais il y a également une musique originale donc signée Wendy Carlos, notamment ce titre qui introduit le film évoquant dès le générique la menace qui plane à travers le plan à l'hélicoptère de la voiture qui rejoint l'hôtel Overlook. Et donc on entend cette musique très angoissante en ouverture du film. L'angoisse, c'est ce qui caractérise, on va dire, les romans de Stephen King et donc ce qui caractérise les BO qui vont illustrer les adaptations cinématographiques. En 1983, The Dead Zone de David Cronenberg avec Christopher Walken qui est pourvu d'un pouvoir, en fait, celui de deviner l'avenir des gens en les touchant. Ce film de David Cronenberg est mis en musique par Michael Kamen, ce qui était surprenant à l'époque puisqu'en fait on connaissait la collaboration déjà entre David Cronenberg et Howard Shore. Mais c'est sur la demande du producteur que David Cronenberg a dû changer de compositeur et donc faire appel à ce Michael Kamen qui était pourtant à ses débuts d'ailleurs dans les partitions hollywoodiennes à l'époque. Et donc on entend dans cette partition des sursauts de cordes qui illustrent les scènes de vision, une musique qui n'est pas sans rappeler le style psychologique de Bernard Herrmann dans un style un peu opératique donc dans ce Dead Zone. Thank you.
personne ne nous fera plus de mal. Tant que nous serons ensemble.
On reconnaît le style de John Carpenter à l'instant avec Christine, avec cette histoire d'Amy Cunningham, un adolescent sous l'influence de sa voiture néfaste. Autre adaptation de Stephen King par le réalisateur John Carpenter qui lui-même donc renoue avec l'écriture musicale de ses films, puisque le film juste avant c'était The Thing avec la collaboration d'Ennio Morricone. Donc là il retrouve la partition avec cette partition froide, électronique, qui colle parfaitement aux images et qui apparaît bien souvent quand la voiture du film prend vie. Autre adaptation de Stephen King, Cimetière en 1989, film de Marie Lambert et musique d'Eliot Goldenthal. Eliot Goldenthal qui signe là sa première BO, enfin en tout cas l'une de ses premières BO d'ampleur, et on y entend des chœurs d'enfants. Misery, à l'instant 90, c'est Mark Shaiman qui signe cette partition du thriller de Rob Reiner. Alors c'est assez étonnant à l'époque puisque Rob Reiner, le réalisateur, et Mark Shaiman, le compositeur, étaient connus un an plus tôt avec la comédie romantique Quand Harry rencontre Sally. Donc là, il change complètement de registre avec ce thriller donc adapté de Stephen King, Misery. George Romero, l'auteur des Morts-Vivants, Le Retour des Morts-Vivants, La Nuit des Morts-Vivants, Le Jour des Morts-Vivants, George Romero adapta donc Stephen King avec La Part des Ténèbres en 93 et fait appel pour la partition à Christopher Young, le spécialiste des thrillers, hein, c'est lui qui signa Hellraiser, notamment un film d'horreur, et un thème principal pour ce film avec cœur, toujours, sombre, pessimiste, qui évoque la dualité du personnage de Beaumont dans ce film, qui donc se crée un pseudonyme qu'il va éliminer, mais qui va se venger en retour. Donc c'est presque une mise en abîme pour Stephen King avec ce film, donc La Part des Ténèbres. Et à l'instant, l'orchestre toujours, et des chœurs toujours. Les chœurs sont aussi très présents dans les partitions d'adaptation de Stephen King avec Patrick Doyle à la partition à l'instant. Patrick Doyle, hein, qui est le compositeur écossais régulier de Kenneth Branagh, et le bazar de l'épouvante à l'instant de Fraser Clark Heston avec Ed Harris dans cette petite boutique où il vend un peu de tout au prix dérisoire. Mais certaines acquisitions dans cette boutique sont empoisonnées, il y a un revers à l'adaptation terrifiante de Stephen King signée Patrick Doyle. Mais Stephen King a aussi écrit un roman qui n'est pas du tout dans le registre de l'horreur, il s'agit des Évadés, adapté par Frank Darabont, dont il s'agit d'ailleurs du premier film. C'est un drame carcéral avec Tim Robbins et Morgan Freeman, et la partition est signée Thomas Newman.
Alors mon garçon, mettez tous vos tampons sur vos formulaires et ne me faites pas perdre mon temps. Parce que pour vous dire la vérité, j'en ai rien à foutre. Thank you.
Dolores Claiborne, autre adaptation de Stephen King en 1995, et la musique de Danny Elfman, beaucoup plus nuancée, complexe, mystérieuse qu'à l'accoutumée, avec donc cette Dolores Claiborne, incarnée par Kathy Bates, et la partition qu'incarne son trouble parfaitement. Le panorama des musiques adaptées de Stephen King est terminé, l'émission également. Merci donc à la technique Gilles Brézard, merci pour cette rentrée, nouvelle formule de l'émission, et on se quitte par ça numéro 2, deuxième épisode donc de ça, adapté de Stephen King, et c'est Benjamin Wallfisch qui signe la musique donc de ce film de Andy Muschietti. Au revoir.